un instant sur ce que nous avions dit sur la vérité comme convertible avec l'être, ce qu'on a appelé les transcendentaux en scolastique, c'est-à-dire ceux qui étaient dans saint Thomas De Veritate, question 1, qui est absolument une question qu'on doit avoir lue. Parce qu'elle est très importante. Et c'est une perspective de critique, hein, de critique au plan métaphysique. Le vrai est convertible avec l'être, parce que tout être en tant qu'être est intelligible. Et la vérité, c'est être en conformité avec ce qui est. La vérité, je la possède dans mon acte intelligent, d'intelligence, et le vrai, je ne le possède jamais. Il est mesure, il est celui, ce que j'atteins, et ce qui mesure ce que je connais. Oui, c'est très important de bien voir que la vérité formellement est dans mon intelligence et le vrai est dans la réalité. De sorte que le vrai pris formellement est dans mon intelligence, c'est ce que je connais. Et le vrai est la mesure de ce que je connais. Ceci pour la connaissance spéculative, pour la connaissance de sagesse. Pour la connaissance pratique, c'est-à-dire au point de vue éthique ou au point de vue artistique, le vrai formel est mesure de mon activité. Et ce n'est plus en éthique, ce n'est plus le vrai qui mesure mon intention, c'est le bien. Nous allons voir le bien après. Et pour l'art, l'idéal est vrai dans la mesure où elle est réalisable. Il y a des artistes qui ont des idées magnifiques, étonnante, mais qui, dès qu'il s'agit de réaliser, là, c'est pas au point. Et ça se voit de plus en plus. On a des architectes qui sont très intelligents, mais il leur manque le réalisme de ce qu'on fait. L'artiste, c'est celui qui fait quelque chose. C'est pas seulement celui qui a des idées merveilleuses. Et c'est très curieux de voir ces trois types de vérité. La vérité au plan métaphysique, la vérité au plan éthique, la vérité au plan artistique. Et ayez toujours devant les yeux ces trois types de vérités qui sont toutes différentes et que très facilement, dans le monde d'aujourd'hui, on demeure sur le vrai possédé par l'intelligence. Vous voyez ? La distinction que nous faisons au point de vue moral entre un homme vrai et un homme sincère. Un homme sincère, c'est celui qui est fidèle à son intention de vie. Un homme vrai, c'est celui dont l'intention de vie est conforme au bien. Il y a deux points de vue très différents. Et quand vous voyez au point de vue artistique, vous voyez que la vérité au point de vue artistique, elle est entre les deux. L'artiste doit réaliser. Un artiste qui ne réalise jamais rien n'est pas un artiste. Il risque toujours de platoniser. Et Platon réalise quand même quelque chose, il réalise son œuvre en artiste. C'est pour bien comprendre Platon, il faudrait voir que chacune de ses œuvres sont un monument. Et c'est vrai. Il n'y a pas une continuité absolue. Ce n'est pas parce que j'aurais saisi le point de vue de la République que je pourrais tout déduire. Non, pas du tout. Chacune de ces œuvres représente une œuvre belle. Est-ce qu'elle est vraie ? Ah, autre chose. Et c'est un exemple très intéressant à regarder, ça. Quelle est la vérité du platonisme ? La beauté du platonisme, Concedo. C'est un artiste, Platon. Un artiste intellectuel de grande race. C'est beau. Est-ce que c'est vrai ? Ah, il a les pieds d'argile. Toute sa grande vision repose non pas du tout sur le jugement d'existence, mais sur ce que Platon a découvert. Platon est la mesure de son œuvre. Et chacune de ses œuvres représente quelque chose qui est une statue qu'on doit admirer pour elle-même. Et si on la compare à l'autre statue, on voit que c'est différent et c'est totalement différent. C'est pour ça que je ne peux pas ramener l'œuvre de Platon à une seule vision. On retrouve toujours le primat de la beauté. Et ça, c'est vrai, c'est le primat de la beauté. Mais dans ce primat de la beauté, je vois cette diversité au point de vue vérité. Il faut donc bien comprendre que le vrai, au point de vue spéculatif, que le vrai formel, c'est le vrai de l'intelligence, mais qui demande d'être mesuré par le réel. Et c'est parce que le vrai formel est dans l'intelligence que si facilement on platonise, on devient platonicien. parce que le vrai formel est plus séduisant que le vrai de la réalité. Et ceci, ça se voit à l'intérieur de cette recherche de la vérité. Et c'est très, très important de voir ça, que le vrai formel, autrement dit, le vrai est pleinement lui-même, mais il est pleinement lui-même, pas comme vrai, il est pleinement lui-même au point de vue connaissance, dans le vrai de l'intelligence. Et ce vrai de l'intelligence est mesuré par la réalité. Et c'est comme le vrai formel est plus séduisant que le vrai ontologique de la réalité, très facilement on considère ce vrai formel comme le vrai principal, alors qu'il est secondaire. Vous voyez, c'est très important de comprendre comment, si facilement, à partir de 45 ans, on devient platonien. On a beaucoup de peine à maintenir son aristotélisme jusqu'au bout. Parce que précisément, le vrai formel, c'est le vrai que l'intelligence connaît. C'est mon vrai. C'est le vrai de mon intelligence. Je le possède. Alors, vous voyez, c'est la lutte entre être et avoir. À partir de 45 ans, on devient conservateur. On est pour l'avoir plutôt que pour l'être. Je dis 45 ans, 50 ans, ou 60 ans. C'est des pensionnés du Nord et du Midi. Mais c'est toujours la grande tentation. La grande tentation, c'est que quand on est jeune, quand on est dans la recherche, on comprend que la réalité mesure mon intelligence. Mais lorsqu'on prend de l'âge, on commence à considérer que ce qu'on connaît est plus intéressant que la réalité. Et il y a quelque chose de vrai. Ce qu'on connaît, on l'a. On peut l'exprimer. La réalité, on doit tout le temps y revenir à l'expérience. Et très facilement, on perd ce contact direct de l'expérience et on demeure dans ce qu'on connaît. Alors, c'est ça qui est de très intéressant dans cette recherche de la vérité. C'est tout un aspect qui montre comment l'entelekeia, le vrai que je possède, est ordonné à energeia, le vrai de la réalité. La vérité est le vrai. Quelle différence y a-t-il ? Dans le langage, la vérité, je formalise. Qu'est-ce que c'est que la vérité ? C'est ce par quoi le vrai est vrai. Je formalise. Et quand je formalise le vrai, je tombe dans la vérité. Je mets donc en premier lieu ma connaissance de la vérité. et non pas la réalité. Alors ça, c'est le défaut mignon des historiens. Comme la vérité pour eux est à base des documents, et le document a quand même une valeur moindre que la réalité, c'est sûr. Cependant, l'historien doit respecter le document. Et si facilement l'historien se met à broder le vrai formel, alors il a sa vérité d'historien. En tant que bon historien, c'est comme ça que je vois. Alors, ça devient terrible quand c'est appliqué en théologie. Parce qu'alors, ce que l'historien a compris passe avant la tradition. Il y a là, je crois, quelque chose qui est très important pour nous. Parce que aujourd'hui, constamment, l'historien veut être sagesse, sage, parce qu'il n'a pas atteint la métaphysique. Il considère que ce qu'il sait par la science historique est premier. Et en théologie, c'est d'autant plus dangereux. La tradition n'est pas l'histoire. La science historique, elle se fonde sur la tradition. Mais la tradition est quelque chose, c'est le vrai. C'est la réalité, la tradition. C'est la vie du Saint-Esprit dans les saints. C'est la vie du Saint-Esprit dans l'Église. Et puis il y a l'historien, c'est l'homme qui possède la tradition, c'est l'homme qui possède en lui-même la tradition, alors que la tradition, elle est ce qui mesure son histoire et sa science historique. Vous voyez, c'est pour ça que c'est tellement important de bien saisir en métaphysique ce point de vue de la vérité. Ça a des répercussions énormes en métaphysique et en théologie. De bien voir ce qu'est exactement la science historique, comparativement à la réalité. La réalité passée, comment de mortels objectifs ? Elle demeure objective dans les documents qu'on a. Quand on n'a plus les documents, on ne sait plus rien. Mais c'est les documents qui servent alors de mesure. Et la lecture des documents, c'est l'historien. Et c'est la vérité de l'historien. Et la vérité de l'historien, c'est que sa lecture doit être conforme aux documents. Autrement, c'est lui qui donne la vérité à la place du document. Donc, on pourrait pousser beaucoup et rester longtemps sur cette question de la vérité. C'est très important pour nous, puisque la vérité demeure pour nous une recherche sacré. Nous recherchons la vérité au plan philosophique, la vérité au plan théologique, la vérité au plan mystique. Vous avez trois types de vérités qui sont très intéressantes à bien préciser. La vérité philosophique, est-ce que ce que je dis est conforme à ce qui est? Or, si je parle du passé, ce qui est est témoigné dans les documents. C'est les documents qui remplacent la réalité. Oui. Les documents, ça peut être une pierre pour l'archéologue. Ce sont les pierres. L'archéologue creuse, il cherche, et puis tout d'un coup, il s'arrête. Pourquoi il s'arrête à cet endroit-là et qu'il ne creuse pas toujours? Ah, c'est qu'il trouve un sol, un dallage qui montre que c'était là où les gens marchaient. On cherche le sol où les gens marchaient, l'archéologue. C'est toujours très intéressant d'entendre un véritable archéologue qui est non seulement dans les livres, hein, mais qui est sur le chantier. Un archéologue qui va lui-même pour creuser et qui s'arrête devant un crâne. C'est un document, un crâne. Un document silencieux. Parce qu'on ne sait pas en face d'un crâne si vous étiez en face d'un homme très intelligent ou si vous étiez tout simplement un homme qui a vécu à cette époque-là, le domestique du coin ou bien le maître. Tous les deux ont le même crâne. Tiens, curieux. Le Seigneur, il lui reste le crâne. Le cuisinier, il lui reste le crâne. Et l'interprète. Vous voyez, il y a tout le point de vue de l'interprétation. Et dans l'interprétation, on interprète en fonction de ce qu'on sait de l'époque. Parce que le document en lui-même et silencieux. Même quand c'est un livre, quand c'est une ardoise, il est silencieux. Alors, il y a tout ce point de vue d'interprétation. L'interprétation, qu'est-ce que c'est au point de vue philosophique? Qu'est-ce que c'est que l'interprétation au point de vue philosophique? C'est quand même très important, ça. Parce que quand on est en face de la parole de Dieu, je suis en face de la parole de Dieu comme historien, je suis en face de Dieu comme croyant. Ah. Vous voyez tout de suite la différence. Comme croyant, vous recevez la parole de Dieu directement de Dieu. Comme historien, vous recevez la parole de Dieu comme un document. Vous voyez, et c'est le problème de la vérité qui nous fait comprendre ça tout de suite. Quelle est la mesure? Est-ce que c'est la parole de Dieu, et donc c'est Dieu qui est mesure de la signification de la parole de Dieu? Ou c'est le document, alors le document gardé par un peuple, par un petit conseil qui nous a gardé ce document. Tout ça est très important à regarder. Je peux regarder la parole de Dieu comme un document. Je peux regarder la parole de Dieu comme la parole vivante. Quand c'est une parole divine, elle est au-delà du temps. Elle est éternelle. En tant que document, elle est dans le temps. Et vous voyez, là, c'est le problème de la vérité. Donc, il faut comprendre que creuser ce qu'est la vérité est une chose très, très importante. Hein, et que ma recherche métaphysique de l'acte m'aide à discerner ces niveaux de vérité. Et que si je n'ai pas cette connaissance métaphysique de l'acte, je ne peux pas ordonner les différents niveaux de vérité. Il y a donc quelque chose qui est capital pour nous. Et il faut creuser, et c'est difficile. Parce que c'est toujours complexe, vérité formelle, le vrai. Le vrai existe. Toute réalité existante est vraie. Et toute réalité existante est source de vérité. Eh bien, comprendre dans le langage, le point de vue concret du vrai, toute réalité est vraie. Chacun d'entre vous, en tant que vous existez, vous êtes vrai. Et si un psychologue essaie de vous comprendre, s'il vous comprend bien, il est dans la vérité. Mais si, à la place de vous comprendre, il vous prend comme un document silencieux, vous avez beau lui dire « Non, c'est pas ça du tout. » Non, non. Il vous prend comme un document qu'il interprète en fonction de l'idée qu'il a de l'homme. L'homme réagit comme ça. Il a une affectivité comme ça. Et il explique, il interprète en fonction de sa philosophie. Et alors, c'est le problème courant dans notre vie. Hein. On doit chercher la vérité. Mais c'est complexe. Parce que nous vivons dans le temps. Et nous sommes entourés de documents. Les bibliothèques deviennent de plus en plus importantes. Le nombre de bouquins par an, c'est fabuleux. Et tous les livres, quand vous écrivez un livre, vous écrivez un document. Vous signez un document. C'est une pierre angulaire. Tant que vous êtes vivant, vous pouvez dire « Oh, il m'a mal compris ». Il interprète autrement. Et c'est très vrai. Quand vous écrivez un livre de théologie lu par un marxiste, lu par un idéaliste non-croyant, il voit dans ce que vous dites tout à fait autre chose de ce que vous voulez dire. L'interprétation, l'herméneutique. L'herméneutique, c'est l'interprétation. Et au fond, quand vous lisez un livre de philosophie, vous l'interprétez en fonction de la petite philosophie que vous avez en vous. Si vous lisez de l'Aristote, attention, Il n'est pas bête. Je ne comprends pas. Il me mesure. Si vous lisez du Marx, vous essayez de comprendre dans la perspective de la philosophie réaliste que vous avez. Interprétation. L'interprétation n'est pas la vérité. Hein. L'interprétation, c'est en fonction de ce que vous avez et vous êtes, vous, la mesure. Et vous vous corrigez en fonction de la mesure réelle. Parce que vous êtes critique de votre propre pensée. Et vous devez critiquer votre propre pensée. Bon. C'est donc tout ce point de vue de la vérité est extrêmement complexe et extrêmement important aujourd'hui, puisque l'herméneutique, c'est-à-dire l'interprétation, devient de plus en plus importante. Au Moyen-Âge, pour saint Thomas, l'herméneutique jouait beaucoup moins. Saint Thomas lit saint Augustin dans sa perspective de Thomas d'Aquin. Aujourd'hui, nous lisons saint Augustin en disant « Attention, il faut bien interpréter saint Augustin. Saint Augustin est avant Thomas d'Aquin. Donc les distinctions de Thomas d'Aquin ne jouent pas. » Et on essaie de comprendre ce qui était compréhensible du temps de saint Augustin. Saint Augustin était rhéteur avant d'être converti. Un grand rhéteur. Oh. Quand il a été baptisé, quand il s'est converti, est-ce que le rhéteur s'est converti? Petit à petit. Mais le baptême ne change pas mon intelligence. Un cancien qui reçoit le baptême reste inconscient, parce que Dieu est infiniment miséricordieux. Il est miséricordieux pour Kant et pour tous les conscients. Et ce conscient, progressivement, redevient réaliste à cause de sa foi. Mais vous n'allez pas demander à un conscient qui se baptise, qui vient d'être baptisé, tout de suite d'être réaliste. Non, il reste conscient. Alors il fait attention. S'il édite un livre religieux, il demandera à son ami non conscient de le rectifier. Et son ami dira ça c'est encore du Kant, c'est pas tout à fait juste. Corrige. Il faut essayer de vivre cette recherche de la vérité et de la saisir dans notre travail. Et vous lisez Aristote, forcément vous l'interprétez et vous essayez de l'interpréter le moins possible et de comprendre Aristote dans sa lumière. C'est pour ça qu'on dit, pour comprendre Aristote, il faut, pour lire Aristote et le comprendre, il faut d'abord comprendre ses intentions. Ce que fait très difficilement un conscient. Je m'arrête au point de vue de la vérité. J'ai conscience qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Et que nous avons à y revenir constamment. L'acte se donne en dernier lieu sous le mode du bien. Il a été découvert par le bien, et une fois que j'ai découvert l'acte, je reviens au bien. Vous voyez, il faut bien voir avant et après. C'est vrai, on a vu que l'amitié jouait un rôle très grand pour la découverte du principe de finalité. Donc, pour découvrir l'acte comme premier dans l'ordre de l'être, ce par quoi l'être est capable de me finaliser. Ça, c'est l'acte. Or, pour moi, l'acte se donne d'une façon tout à fait privilégiée dans le bien. Qu'est-ce que c'est que le bien ? J'ai déjà découvert l'acte. Alors, dans la lumière de l'acte, dans la lumière de la découverte de l'acte, j'essaie de comprendre ce qu'est le bien, qui est un mode particulier de l'acte, qui est le mode le plus explicite de l'acte. Le mode le plus explicite de l'acte, c'est le bien. Quand je dis que Dieu est acte pur, je dis tout de suite qu'il est la bonté absolue. Alors, le bien dans la lumière métaphysique de l'acte. Le bien, c'est ce qui attire. C'est très curieux. C'est l'acte qui me finalise, qui m'attire. La fin, elle m'attire. La véritable fin. Et je reprends alors, à ce moment-là, l'amitié. Je suis attiré par l'ami. L'ami m'attire. En tant que l'ami m'attire, il est acte pour moi. Il est mon bien. Mon bien, c'est ce qui m'attire. Je le vois très bien, prenez l'exemple très simple du choix du petit gâteau. Pendant le carême, c'est particulièrement parlant. Le choix du petit gâteau, puisque pendant le carême, une petite pénitence facile à faire, mais qui demande un effort quand même. Chaque fois que pendant le carême, vous avez envie du chocolat, le chocolat vous attire, parce qu'il est bon. Le très bon chocolat, je dis pendant le carême, non, non. Ça, petite offrande qu'on peut faire à Dieu, tout le monde peut la faire. Et c'est une petite offrande très bonne, hein, parce que c'est dominer le concupiscible. Et le concupiscible est très fragile en face du gâteau, en face du chocolat. Il m'attire. Et plus j'entre dans le carême, plus il m'attire. C'est curieux. Et c'est vrai. Parce que plus la privation est forte, plus l'attraction est grande. C'est curieux. Et c'est comme ça, de fait. Nous avons toute cette expérience-là. regardons-la dans la lumière de l'acte. Dans la lumière de l'acte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon appétit sensible, qui aime les bonnes choses, qui aime le chocolat, ah, vous voyez, qui aime le chocolat. Quand dites-vous que vous aimez le chocolat? Quand vous êtes attiré par lui. C'est cette attraction que le chocolat exerce sur vous. Et quand personne vous regarde, l'attraction est d'autant plus forte. Et vous précipitez. C'est le bien, c'est ce qui m'attire, ce qui exerce sur moi cette attraction. C'est l'acte, pour moi, c'est en premier lieu le bien. Ma première saisie de l'acte, c'est la saisie du bien. Oh, c'est très important. C'est très important parce que ma première saisie du bien, c'est ma première saisie d'une certaine finalité. Je sais que le chocolat ne me finalise pas. Dans l'Écriture, il y a des exemples fameux pour comprendre cela. Ésaü, le plat de lentilles, par rapport au droit d'aînesse. C'est un exemple étonnant de l'attraction. Il a très très faim. Donne-moi un plat, que je mange, que je mange. Quand on a très faim, on n'a plus d'intelligence. Tout est dans l'appétit. Ah, c'est curieux ça. Et tout le reste s'efface. Et l'appétit seul demeure. Et c'est une attraction telle qu'on dit, je ne pouvais pas faire autrement. Je ne pouvais pas faire autrement. Ça veut dire que vous avez considéré que cette attraction était majeure. C'était la seule chose que vous pouviez faire. Prendre ce plat de lentilles. Droit d'aînesse, oh, je m'en fiche. À côté du plat de lentilles. Dans la réflexion simple, c'est complètement idiot de mettre le plat de lentilles avant le droit d'aînesse. C'est complètement idiot. Mais c'est réel, à certains moments, l'attraction du concupiscible, c'est-à-dire du bien sensible, est plus forte que tout. Ça se présente à moi comme ma faim. Pas la faim que je mange, mais la faim qui me finalise. Ce qui me finalise. Ah, c'est donc, voyez, à l'égard du bien que je saisis le mieux ce que c'est que l'acte. L'acte, c'est ce qui m'attire. L'acte, c'est ce qui réalise en moi un désir, un amour imparfait qui réclame d'être parfait. Le désir du plat de lentilles, c'est d'avoir de pouvoir manger le plat de lentilles. Et quand je mange le plat de lentilles, ce désir diminue. C'est curieux. Alors que si je n'avais pas le plat de lentilles, le désir aurait augmenté. Ça, c'est très important de voir que le désir, c'est pour moi la première expérience de l'attraction du bien. Ça suscite un désir, ça suscite un appel. Et je suis très sensible à ça. Tout le monde est très sensible au désir. Et le désir est donc ce qui va m'aider à comprendre ce qu'est le bien. Et le bien, c'est l'aspect de réalisation de l'acte. Qu'est-ce que c'est que le bien ? C'est ce qui m'attire. C'est l'acte sensible ou spirituel, parce que je pense cet appétit sensible, parce que celui-là, il est le plus expérimenté. Nous avons tous expérimenté ce qu'est un désir. Et dans votre vie actuelle, vous expérimentez le niveau de votre appétit, le niveau de votre sensibilité en raison des biens que vous désirez. Vous désirez un bien spirituel qu'on vous honore, un bien spirituel, qu'on reconnaisse vos qualités. Vous avez ce désir-là. C'est un désir plus spirituel que le chocolat. Mais c'est un désir beaucoup plus profond. Et si je suis bien éduqué, je désire de toutes mes forces d'atteindre la vérité, parce que je comprends que c'est le bien de mon intelligence et que je désire être intelligent et que le bien de la vérité me permet d'être plus intelligent. Mon intelligence grandit dans la mesure où elle atteint la vérité. Quand mon intelligence n'atteint pas la vérité et qu'elle reste uniquement dans l'opinion, qu'elle se contente de l'opinion, mon intelligence ne progresse plus. Elle est un palier et elle ne progresse plus. Tandis que si mon intelligence cherche vraiment la vérité et non pas l'opinion, l'opinion, c'est la vérité des autres. C'est la vérité la plus répandue. C'est l'opinion. C'est pas nécessairement vrai. Ça a été dit. Ça a été proclamé comme cela. Un certain nombre de gens proclament ça. Mais est-ce que c'est vrai? Quand je reste au niveau de l'opinion des gens, je ne nourris pas mon intelligence. Et mon intelligence ne grandit pas. Mon intelligence reste au niveau de l'opinion. Parce que la vérité, ce n'est pas l'opinion. La vérité est le bien de mon intelligence. Mon intelligence grandit dans la mesure où elle découvre le bien. vie le bien spirituel de l'intelligence. Et si je regarde maintenant le bien spirituel de ma volonté, de ma personne, je dis ce bien spirituel de ma personne, c'est mon ami, c'est Dieu. Par le point de vue du bien, je saisis donc ce qu'il y a d'ultime dans l'acte. L'acte présente à moi toujours, dans ce qu'il a d'ultime, sous cette apparence, sous cette modalité particulière, de m'attirer comme le bien de ma personne. Le bien de ma personne, c'est un bien qui me saisit totalement. Avant d'arriver à ce bien de la personne, il y a eu le bien sensible, le bien imaginaire, le bien de l'intelligence, et enfin le bien personnel, qui fait cette attraction de tout mon être. J'aime la personne de l'ami. J'aime la personne divine.